Donc maintenant, je passe la parole à notre collègue de Fribourg, Dorothée Ayer. Elle est docteur en didactique des langues de la Sorbonne Nouvelle de Paris. Elle enseigne actuellement à Fribourg en sciences de l'éducation et elle est formatrice des futurs enseignants de collège et de lycée. Donc elle travaille elle aussi du côté de l'intercompréhension. Donc, sa communication porte sur l'enseignement bilingue comme dans lequel la prise en compte du contexte, il paraît, est obligatoire.
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, comme l'a dit Madame Lascou, je suis là forcément en tant qu'enseignante, qui est vraiment mon ADN, en tant que chercheuse également, et en tant que formatrice de futurs enseignants. Et c'est ce qui m'a poussée à réfléchir à la question que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je dirais, une superposition comme ça de plusieurs inputs que j'ai dans ma vie professionnelle. Donc, la question qui se pose au départ m'est venue en lisant des titres. Là, le titre d'un journal, c'est un quotidien roman, suisse roman, donc très, très régional, qui titrait l'année passée, en avril, que la filière bilingue n'ouvrira pas cette année. Donc ça, c'était il y a une année en arrière. Et puis, cette année, qu'est-ce qu'on retrouve quasiment à la même date ? Toujours pas de filière bilingue à Mora. Alors, je vais vous donner quelques informations pour vous expliquer un petit peu ce contexte. Donc, la filière bilingue est toujours, parce que c'est un projet qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est toujours à l'état de projet. C'est une filière bilingue qui concerne des élèves qui sont à l'école secondaire 1, donc le collège en France. Ça correspond à des élèves qui ont entre 12 et 16 ans à peu près, et qui se trouvent dans une région bilingue à majorité germanophone, et avec donc une école qui est également bilingue. Mais attention, c'est un bilinguisme institutionnel, c'est-à-dire que sous le même toit, on a une section francophone et une section germanophone, avec un directeur francophone, un directeur germanophone. Il y a deux numéros de téléphone pour les parents qui veulent appeler. Donc on a finalement deux sections qui n'ont pas spécialement de contact entre eux. En tout cas, au niveau de l'enseignement, ce sont vraiment deux filières qui sont séparées. Et donc, comme je l'ai dit avant, il y avait un premier essai qui avait été lancé en 2017-2018 pour l'ouverture de cette section bilingue à la rentrée 2018. Et donc ça n'a pas eu lieu. Ils ont relancé les inscriptions cette année pour la prochaine rentrée, et non plus, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu assez d'inscriptions la première année, clairement. Et la deuxième année, il y aurait eu assez d'inscriptions pour ouvrir une classe, sauf que une des raisons pour lesquelles ça n'a pas ouvert, c'est que les élèves n'avaient pas vraiment le bon niveau, enfin pas le niveau requis. Enfin voilà, ce sont un peu les explications qui ont été données par les institutions. Comme Virginie en a bien parlé ce matin, je ne vais pas revenir sur le cas particulier de la Suisse. Par contre, je voulais juste vous montrer, mais je ne sais pas si ça m'a... Oui, on voit. L'école dont je parle et qui me sert d'exemple, c'est d'exemple de départ pour illustrer mon propos aujourd'hui, se trouve à Mora, qui est une petite ville bilingue qui se trouve ici, donc vraiment sur cette frontière linguistique. Mais comme Virginie en a déjà parlé ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour vous dire que voilà, les frontières linguistiques, elles sont elles sont statistiques finalement, parce que la réalité est tout autre. La Suisse est un pays d'immigration avec énormément de langues de l'immigration. Donc c'est un découpage qui ne représente absolument pas la réalité des locuteurs. C'est une réalité, disons, officielle, institutionnelle, mais pas la réalité quotidienne. Pour en revenir à la question de départ, c'était finalement l'importance de tenir compte du contexte. Parce que pourquoi cette filière n'ouvre pas ? Il y a un groupe d'études qui va commencer à travailler sur cette question. Ça ne m'a pas empêché de prendre un petit peu les devants et de réfléchir à ces différents éléments qui font que on est dans une impasse. Je vais revenir sur cette notion de contexte qui a plusieurs définitions. En didactique des langues spécialement, c'est un concept qui est toujours en évolution. Dans les années 70, on a surtout mis l'accent, quand on parlait de contexte, sur la dimension linguistique de l'interaction. Ensuite, dans les années 90, on a pris un peu plus en considération la diversité des éléments constitutifs de ces contextes. Et puis finalement, avec l'approche actionnelle, on est devenu un petit peu plus pragmatique dans nos définitions et on se penche davantage sur le comportement linguistique dans une interaction entre locuteurs de plusieurs langues. Là, ce sont des aspects qui sont assez techniques, assez didactiques. De manière générale, quand on lit des études sur l'enseignement des langues, le bilinguisme, les filières bilingues, on retrouve toujours dans les éléments de contexte les points que j'ai notés ici. J'ai de façon très arbitraire découpé tout ça en quatre catégories. La première concerne tout ce qui est spatial, c'est-à-dire la géographie du lieu. On l'a vu avant, on peut être dans une région avec un contact des langues assez ténu. Il y a les langues qui sont présentes. Là, en l'occurrence, dans mon exemple de départ, on a le français et l'allemand, disons plutôt l'allemand et le français. Donc on est vraiment dans cette idée spatiale de la répartition des langues. Il y a aussi l'école. Comme je vous l'ai dit avant, on a une école avec deux communautés linguistiques et d'autres aspects qui seraient reliés plutôt à cet aspect spatial. On a ensuite un autre élément qui est très important, ce sont bien sûr les apprenants, notre public. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur leur profil, donc quelles sont les langues maternelles, les langues 2, les langues 3. Comme on l'a dit avant, avec nos étudiants, enfin on l'a dit déjà à plusieurs reprises, nos apprenants sont rarement monolingues, ils ont souvent une langue de l'immigration ou bien des notions parce qu'ils sont en contact avec d'autres langues. Donc il y a aussi à tenir compte l'environnement linguistique, quelles sont les langues de nos élèves, est-ce qu'ils utilisent plutôt une langue pour les loisirs, une autre langue pour l'école, une langue à la maison. Tout ça, ce sont des éléments qui sont partie vraiment, qui constituent réellement le profil de nos apprenants. Il y a aussi les stratégies d'apprentissage, bien sûr, l'épistémologie aussi personnelle, c'est-à-dire les croyances qu'ils ont par rapport à l'apprentissage des langues. Et d'autres choses, la liste ici n'est vraiment pas exhaustive. Dans la prochaine catégorie, il s'agit des enseignants, que je côtoie aussi régulièrement dans le cadre de mon travail de formatrice d'enseignants, avec bien sûr leurs compétences linguistiques, mais également leurs compétences didactiques, et ça j'y reviendrai par la suite. L'investissement personnel aussi dans les projets, on compte beaucoup sur leur propre motivation, leur propre envie de faire avancer des choses ou pas. Ça peut être aussi l'inverse, on a affaire aussi à des enseignants qui montrent beaucoup de résistance par rapport à ce type de dispositif, donc de l'enseignement bilingue. Et finalement, on a la partie institution, donc qui est plus politique et qui concerne les objectifs, puisque c'est en général au niveau politique qu'on définit les objectifs d'une filière bilingue, finalement pourquoi on met en place un dispositif bilingue, avec tout ce qui va, tous les éléments nécessaires au développement d'une filière bilingue, c'est-à-dire les moyens à engager, qu'ils soient humains, qu'ils soient matériels. Donc voilà très rapidement les éléments qu'on retrouve en général dans les études quand on parle de didactique des langues. Pour en venir finalement aux conditions nécessaires pour mettre en place une filière bilingue, déjà pour qu'elle s'ouvre, hein, c'était le point de départ de ma présentation aujourd'hui, mais pour en plus qu'on puisse la maintenir plusieurs années, si possible, hein, qu'elle porte ses fruits. On doit d'abord se pencher sur les objectifs de la filière bilingue. J'ai mis ici un modèle que je trouve très intéressant de Breuil et Gaillot, qui montre finalement qu'on peut avoir des objectifs totalement différents suivant les contextes. Donc le premier, le premier modèle, ça peut être un objectif de transition. On a eu un exemple ce matin quand on parle de ce qui se passe en Afrique, par exemple, où on va peut-être commencer l'enseignement dans une langue, la langue maternelle, pour après amener les élèves dans une langue seconde ou une autre langue. On peut avoir un objectif de maintien quand on a déjà sur place un potentiel bilingue, ce qui est le cas hein, dans ce que je vous présente aujourd'hui. On peut avoir un objectif de revitalisation, ce qui est par exemple le cas de l'occitan, où il y a 40 ans en arrière, on s'est dit on a de moins en moins de locuteurs, donc on va faire en sorte de faire revivre la langue, de la revaloriser. Ou alors un modèle d'enrichissement, et ça on en a parlé aussi un petit peu ce matin, où finalement on va proposer un enseignement dans une langue supplémentaire pour augmenter les chances sur le marché du travail des futurs professionnels. Donc ça, c'est plutôt l'enrichissement, on le retrouvera peut-être plutôt dans l'enseignement supérieur. Une autre condition, d'autres conditions, bien sûr, c'est tenir compte du profil des apprenants. Et là, on a vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'on s'adresse à des élèves qui sont monolingues à la base et qu'on veut amener à être bilingue, ou est-ce qu'on attend déjà un certain niveau de bilinguisme chez nos élèves, ce qui était apparemment le cas dans l'exemple que je vous ai présenté. Finalement, quel est le niveau de compétence qu'on attend dans la langue partenaire? Est-ce qu'on reste sur de l'intercompréhension, donc le principe c'est de pouvoir comprendre la langue partenaire, ou est-ce qu'on demande à nos élèves, ou on les forme à ce qu'ils puissent s'exprimer comme si c'était des natifs? Tout ça, ce sont des questions à se poser, mais en amont, quand on dessine le cursus d'une filière bilingue. Au niveau des enseignants, très important également, même, je dirais, primordial, mais c'est parce que je suis enseignante que je dis ça, c'est vraiment se pencher sur la compétence linguistique, et ça, en général, on est assez sensible à ça. Au niveau politique, on fait attention aux compétences linguistiques. Seulement, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être capable de parler une langue pour pouvoir l'enseigner de façon efficace et sensée. Et en plus de ça, on n'est pas dans l'enseignement des langues étrangères. Ici, dans une filière bilingue, on est dans l'enseignement d'une branche scolaire, mais dans la langue partenaire. Donc, enseigner la biologie en allemand à des élèves francophones. Ça nécessite des compétences particulières dans la didactique du plurilinguisme. À l'heure actuelle, je ne connais pas de programme en Suisse qui forme précisément à ça. On a des programmes qui forment des enseignants dans les deux langues, où les enseignants peuvent suivre un module en français, un module en allemand, et puis eux-mêmes se font une petite sensibilité interculturelle un peu par imprégnation, mais ils n'ont pas d'outils à proprement parler pour enseigner une discipline dans la langue partenaire. Il y a aussi un aspect important, c'est prévoir du temps, prévoir de l'espace, et encourager aussi les enseignants à travailler en équipe pédagogique. On connaît les enseignants, je suis très libre pour en parler parce que j'en suis une, on est des fois un peu sauvage et puis on n'aime pas nécessairement travailler en équipe. Donc il faut aussi encourager cet aspect-là qui est vraiment important. Et finalement, ça sera ma conclusion. J'en arrive au point de la réflexion institutionnelle et qui est vraiment importante pour le développement du curriculum bilingue, c'est-à-dire bien réfléchir à l'équilibre entre les langues. Est-ce qu'on fait un 50-50, donc 50% de cours en allemand, 50% de cours en français? Quelle branche on choisit pour être enseignée en allemand? Quelle branche on choisit pour être enseignée en français? Il faut aussi faire attention à la communication auprès du public concerné. Et ça, c'est apparemment ce qui ressort des premières réflexions quant à la non-ouverture de cette filière, c'est que la communication n'était pas bonne. Les élèves n'étaient pas trop au courant, avaient un petit peu peur de se lancer dans un cursus bilingue, les parents encore plus. Alors qu'on est dans une région où le bilinguisme est valorisé, est encouragé, et où tout parent aimerait que ses enfants maîtrisent au moins deux langues. Et finalement, la question à se poser, c'est la question des moyens, les moyens à engager, donc au niveau des ressources humaines, donc la formation des enseignants également, le soutien pédagogique continu, et puis les ressources matérielles aussi qu'il faudra nécessairement engager, je pense par exemple à des manuels scolaires, à ce genre de choses. Pour l'instant, au niveau des politiques, on part du principe que c'est facile. Hein, on est dans une région où on a une école en français, une école en allemand, on n'a qu'à mixer les deux et puis c'est bon, ça va aller. Ça ne suffit pas. En tout cas, on a vu par ce petit exemple que ça n'a en tout cas pas suffi à convaincre le public. Je vous remercie pour votre attention et merci pour les interprètes.
Il faut bien dire au revoir à notre collègue Virginie Borel. Si jamais on a des questions sur sa présentation ou des remarques, on va les lui envoyer par mail, j'ai bien l'impression. Bon voyage.